Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vous écoutez 6ème Science. Impossible de le louper. Petit loup bleu, le loup en slip. Sans oublier le sempiternel grand méchant loup, chez les enfants, on sait tout ou presque du plus grand des canidés qui a fait du rayon jeunesse des librairies son territoire de chasse. Du côté des plus grands, bergers et scientifiques sont bien forcés de reconnaître leur méconnaissance d'un canis lupus revenu en force dans les montagnes françaises après en avoir un temps disparu. Pour mieux comprendre l'animal, mais aussi le prédateur, des chercheurs ont joué les voyeurs à l'aide de caméras infrarouges et de balises GPS. Notre invité Loïc Chauveau, journaliste à Science et Avenir, s'est entretenu avec eux. Il s'est aussi rendu dans le massif des Bauges en Savoie, où le loup a fait une entrée remarquée. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Qu'est-ce qui t'a amené à te pencher sur le sujet du loup puisque, je le disais en introduction, pour les besoins de cet article, tu t'es rendu dans le massif des Bauges qui s'étend, alors attention, c'est très large, entre Chambéry, Annecy et Albertville.
C'est ça, c'est un petit massif de moyenne montagne et qui voit arriver deux meutes de loups depuis l'été 2021. Et il y avait déjà eu des incursions. Pourquoi je me suis intéressé? C'est parce qu'en fait, ces prédateurs sont absolument fascinants. Ils ont une empreinte sur les milieux qui est extrêmement forte. Les animaux prédatés doivent s'adapter à leur présence et ils marquent fortement les milieux, même les végétaux, puisque en mangeant les herbivores, ils permettent aux arbres, aux plantes de se développer. Donc ce sont des grands transformateurs de ces milieux. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on a des loups partout qui arrivent en France, c'est que les milieux naturels se sont étendus. Il y a eu de la déprise agricole, des champs ont été abandonnés, se sont enfrichés. Il y a un nombre de plus en plus important de chevreuils, de cerfs, de sangliers. Et c'est justement ces espèces-là dont se nourrit le loup.
C'est ça, le loup en quelque sorte suit le gibier.
Voilà, c'est un opportuniste. Et dès qu'il a quelque chose à manger, eh bien il est dans son milieu.
Mais en fait, là on est un peu dans la suite, puisque le loup a un temps disparu du territoire français. Comment ça se fait?
Il a été chassé. Il a été considéré comme un prédateur, un concurrent. Et à la fois considéré aussi comme un animal dangereux dans nos campagnes au début du 20e, enfin
oui,
à partir
au Moyen-Âge.
À partir du Moyen-Âge, ça a été considéré, à tort d'ailleurs, comme un animal dangereux. C'est rentré vraiment dans les mœurs, dans la culture, alors qu'en fait c'est un animal qui n'a pas de sentiments, c'est un animal qui se nourrit sur le monde sauvage principalement. Mais c'est vrai qu'il a fait peur parce qu'il croque une brebis et qu'il y a eu aussi ces fantasmes de la bergère mangée par le loup, alors qu'à part un ou deux cas répertoriés dans la littérature, le loup n'a jamais attaqué l'homme.
Comment ça se fait qu'il est revenu? Enfin, comment expliquer son retour finalement assez récent?
En 1930, il n'y en a plus. Mais il y a eu la déprise agricole et puis il y a eu la création d'espaces naturels protégés, comme le parc de la Vanoise en 1963. Petit à petit, il y a eu un réseau comme ça de milieux naturels qui ont été créés. Il y a eu aussi la réintroduction du bouquetin. Tout ça, ça a été favorable pour le loup. Et il restait une poche résiduelle en Italie, dans les Apennins. Et cette poche résiduelle, petit à petit, elle a recolonisé. Elle est arrivée par le Mercantour et elle a trouvé des milieux favorables. Et petit à petit, la colonisation s'est faite.
On sait que le loup est une créature relativement peu appréciée des bergers, puisque c'est une menace. Quel est le statut? Est-ce que le loup est devenu un animal protégé?
Alors, le loup est en France strictement protégé. C'est la Convention de Berne. Et donc, la France s'est engagée à complètement protéger, mais avec une protection forte, l'espèce. Pourquoi cette protection forte? En fait, c'est parce que la Convention de Berne, dans les années 79 de mémoire, elle a demandé à chaque État quel était le degré de protection de chaque espèce. La France n'ayant pas de loup à cette époque, on a dit, pas de souci, nous allons mettre la protection maximale sur le loup. Manque de peau, il est revenu. Donc on se retrouve avec les statuts et pourtant une bonne envie par pas mal de gens de les éradiquer.
Ouais, c'est ironique.
C'est ironique.
Et finalement, le loup, on le connaît assez peu puisqu'il a disparu de nos contrées avant de revenir très récemment, alors que l'animal nous précède, puisqu'il est apparu il y a... Alors, je ne fais que citer ton article, je n'ai aucun mérite, apparu il y a environ 1,8 million d'années, bien avant Homo sapiens. Est-ce que le loup qui nous a vu émerger est différent du loup qu'on voit, nous, émerger aujourd'hui ?
Assez peu. En fait, il a assez peu évolué. Il s'est transformé du fait de ses méthodes de chasse. Il a perdu ses griffes rétractiles au profit d'une méthode de chasse de course et d'affaiblissement de ses proies. Il n'a pas de griffes rétractiles comme le chat, par exemple. Donc, il faut qu'il épuise ses proies. Et les proies ont coévolué. C'est-à-dire que, comme il fallait avoir une résistance vis-à-vis de son prédateur, eh ben, les animaux comme les cerfs, les chevreuils, etc. ont gagné en taille. Et certaines espèces, elles, se sont adaptées à des milieux où le loup ne pouvait pas les chercher. C'est le cas du bouquetin et du chamois.
Donc c'est ça.
Finalement, qui vivent dans les falaises.
Le gibier s'est rendu inaccessible en allant se percher ou alors en allant courir plus vite ou plus longtemps.
Exactement. C'est une coévolution qui date pour l'Europe de 800 000 ans, parce que la région d'origine du loup, c'est l'Amérique du Nord. Il est passé par le détroit de Bering il y a 800 000 ans pour petit à petit coloniser toute l'Eurasie.
Alors revenons sur le plancher des canidés, on va rester dans l'Hexagone. Est-ce qu'on sait à peu près combien de loups peuplent aujourd'hui le territoire français ?
Alors le chiffre officiel c'est 624, mais c'est la moyenne, puisqu'on a une fourchette très large entre 400 et 800 individus, parce que c'est très difficile de compter sur des millions d'hectares une espèce. On est dans des milieux naturels touffus, boisés, avec une espèce qui vit beaucoup la nuit, très élusive, qui évite les hommes. Donc c'est très compliqué de les compter.
Mais, peu sédentaire, de ce que j'ai compris.
Oui, qui vit sur des territoires. Mais c'est des territoires vastes. C'est des territoires, il faut compter 150 km² pour qu'une meute de loups puisse se développer, se nourrisse.
Et comment on estime, du coup, cette population, même si la fourchette est assez large ? Quels sont les moyens mis en œuvre ?
Alors, à chaque fois qu'il y a un signalement, l'Office français de la biodiversité a développé un réseau de 3000 experts, 3000 personnes qui sont confiées sur tout le territoire, qui se déplacent et qui vont examiner des éléments comme les touffes de poils, les excréments laissés par l'animal. Ils vont faire une empreinte génétique et avec cette empreinte génétique, ils vont pouvoir comparer avec d'autres éléments qui vont être pris à 2 ou 3 km pour voir si c'est le même individu ou pas. Comme ça, on a un peu les itinéraires par où passe l'animal. Et puis en plus, on sait à peu près le nombre d'animaux. C'est la meilleure méthode au monde. Elle a été beaucoup décriée. On a dit oui, il y a des gens qui disent oui, il y a des loups partout. C'est du fantasme. Scientifiquement, la méthode faite en France est une des meilleures.
Le loup dans le massif des Bauges n'est plus un fantasme, c'est devenu une réalité. À quel point sa présence est-elle problématique aujourd'hui ?
Ça bouscule tout. Avant, il n'y avait pas de prédateurs. Tout d'un coup, il y en a un qui arrive. Donc, il faut protéger les troupeaux. Donc, ça veut dire que chez les éleveurs, c'est avoir à des chiens, c'est parquer les troupeaux avec des barrières électriques, des protections. Ça, c'est le côté professionnel. Mais il y a aussi des choses auxquelles on ne pense pas. C'est que dans ces massifs, il y a des petits troupeaux faits par des retraités, de 20 chèvres, de 30 moutons, qu'on fait paquer sur des espaces délaissés. Bon, comme il n'y a aucune réalité économique pour ces troupeaux et que le loup est là, les gens les ont abandonnés. Et le problème, c'est que ces espaces qui étaient pâturés auparavant sont friches.
Et oui.
Et donc, on a une augmentation des espaces favorables au loup, comme ça.
Qu'est-ce qui est mis en œuvre, que ce soit du point de vue de l'observation ou de la protection contre l'animal ? Enfin, j'imagine que les bergers se dotent de protection, mais qu'est-ce qui est entrepris ?
Principalement, justement, c'est le chien de défense.
Le patou.
Le patou, ou le berger d'Anatolie, qui est encore plus efficace, encore plus violent d'ailleurs. Et puis, les protections électriques. Si c'est bien mené, ça marche bien, c'est efficace. Mais il faut à la fois avoir des animaux bien dressés, des chiens de défense qui connaissent leur métier, qui connaissent leur troupeau, qui ont un lien avec le troupeau très fort, qui va faire en sorte qu'il va les défendre mordicus, ses copines, parce qu'il y a des liens d'amitié entre
chiens
de défense et les moutons. Ils ont leurs favoris, ils lèchent les animaux. Enfin, c'est des relations qui sont assez étonnantes.
C'est des choses que tu as vues sur place
Oui, tout à fait. On était voir un troupeau de chèvres, il y a 70 chèvres. Le gars a deux bergers des Pyrénées absolument fantastiques, qui n'aboient pas à votre approche, qui restent au sein du troupeau et qui sont d'une efficacité redoutable. Ce sont des races qui ont ça dans le sang.
Ouais.
C'est vraiment inné, mais il faut les éduquer.
Et quand tu étais sur place, on t'a parlé d'une étude qui est assez importante, c'est l'étude Canovis qui a été menée dans les Alpes du Sud. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu son cadre, mais aussi, alors on y viendra, ses conclusions par rapport à l'animal, puisque l'étude a pu observer d'assez près, avec des balises GPS et des caméras infrarouges, le comportement du loup.
Oui, ce sont deux biologistes qui se sont demandés en disant « mais on a un problème avec le loup, on parle du chien, on parle des troupeaux, on parle des moutons, mais on ne parle pas du loup en lui-même. Alors il faudrait quand même savoir quel est son comportement vis-à-vis des protections. » Donc ils ont eu l'idée d'aller demander à des fabricants de leur prêter des caméras infrarouges. C'est du matériel qui coûte assez cher, souvent militaire d'ailleurs. Mais bon, ils ont eu ce matériel. Et donc sur des sites en France, sur le Mercantour, le plateau de Canjuers et le Haut-Bœche, ils ont observé pendant 3 ans, pendant des nuits entières, à la caméra, ce qui se passait effectivement autour des protections. D'abord, la plupart du temps, il n'y a pas d'attaque, c'est-à-dire que le loup passe à côté des troupeaux en les ignorant superbement. En fait, il va chercher des mouflons, du chevreuil, voire de la marmotte, ça, il aime bien la marmotte aussi, le loup. Et on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, il va rentrer dans l'enclos et il va chiquer une ou deux brebis. Pourquoi est-ce qu'il va à la brebis? Pourquoi est-ce qu'il va au mouton? Ça, c'est difficile à dire, on n'est pas dans sa tête. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des différences de comportement, mais vraiment dramatiquement différentes. Certains ont absolument peur des protections et des barrières électriques. D'autres, alors, au premier aboiement, vont s'en aller. Puis d'autres n'en ont rien à faire. Ils vont sauter par-dessus la barrière et faire comme si l'électricité ne les gênait pas. C'est du 12 volts quand même. Et puis aller chiquer une brebis, la faire passer dessous la barrière et la partager avec un congénère qui, lui, beaucoup plus timide, et attend benoîtement qu'on lui apporte son manger. Ça a été constaté, des comportements comme ça sur le terrain. On voit qu'il y a une multitude de personnalités au sein de cette population et que la conclusion, c'est qu'il ne faudrait pas parler du loup en général, mais que chaque éleveur parle de son loup.
Donc c'est ça, pour adapter en quelque sorte sa stratégie Exactement. De défense vis-à-vis de ce loup.
L'idée de toutes ces observations, c'est d'arriver à des stratégies qui soient beaucoup plus fines, qui permettent d'anticiper les attaques, de voir quelles sont les conditions météo, les conditions de sécheresse, les conditions de pluie qui font qu'on va avoir plus d'attaques que d'autres. Essayez quand même d'objectiver les choses pour avoir une protection plus efficace.
Parce qu'il y a un point important qu'on n'a pas évoqué, c'est que quand le loup frappe, il peut croquer une ou deux brebis, chèvres ou d'autres animaux, mais il y a d'autres fois où il ne fait pas du tout semblant et il tue plus que nécessaire. Ça arrive, dans ton article, tu donnes l'exemple des 486 attaques recensées en 2021 en Savoie et qui ont fait plus de 1700 victimes, parmi lesquelles des chèvres, des moutons, des vaches, mais aussi quelques chevaux, trois je crois. Les chercheurs parlent de surplus killing ou prédation excessive. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce phénomène?
Alors ce phénomène n'est pas expliqué encore.
Le
problème c'est qu'on n'a pas de réponse. On constate effectivement, et ça traumatise énormément les éleveurs, que normalement dans la nature, un loup tue un animal et une fois qu'il l'a tué, il le consomme. Donc il arrête de tuer à cet endroit-là, ça y est, il a sa nourriture, il la mange, il a obtenu ce qu'il voulait. Et là, on a une espèce de débordement du comportement qui fait qu'une fois qu'on a tué, on ne s'arrête pas, on reste toujours sur le mode de la prédation et pas de la consommation. Il est possible que ça soit les mouvements du troupeau, le comportement de flocking, c'est-à-dire de concentration des animaux sous le coup de la peur, du stress, qui les incite à continuer à tuer. Mais tout ça sont des hypothèses et effectivement, c'est un phénomène qui est intriguant et qui est très traumatisant.
Quand tu parles de flocking, c'est ça, c'est finalement le fait qu'il y ait tant de proies à disposition qui fait que le loup se dit « Ok, j'en profite, quoi, je
croque. » Exactement. Enfin, on n'est pas dans sa tête.
Non, malheureusement. Mais c'est vrai que l'objectif de l'étude, tu le disais, c'était un peu de se glisser sous la peau du loup pour en comprendre les différentes personnalités.
Exactement.
Quelles suites vont être données à cette étude qui a été menée, je crois, jusqu'en 2017?
Jusqu'en 2019. Le rapport a été remis cet été. Les chercheurs espèrent continuer à avoir des observations toujours plus importantes pour essayer justement de pouvoir avoir une série de comportements. Là, ils ont quand même passé 390 nuits à observer, mais c'est pas suffisant. On a encore un champ de comportements à observer pour pouvoir arriver ensuite à effectivement des règles plus précises de protection, adapter les barrières. Par exemple, est-ce qu'on sait si le loup saute par-dessus ou par-dessous d'une barrière électrique? On n'a pas encore de certitude. On pense que c'est plutôt par-dessous, mais on a vu des loups qui sautaient allègrement à 1,40 m sans problème. Quoi. On n'a pas de certitude là-dessus, donc il faut adapter les matériels et qu'ils soient efficaces que si on en sait plus sur le comportement. Donc c'est du travail à continuer. Mais ce qui est sûr, c'est que quoi qu'on en fasse, et même si on autorise le tir sur des individus, le loup, il est là et il est fait pour rester. Mmh. Le milieu est favorable et il ne s'en ira pas.
C'est bien que tu évoques cette question de tir, parce qu'aujourd'hui, il y a une autorisation, je crois, de tir de prélèvement, si j'ai compris.
Tout à fait. C'est 19% de l'effectif, donc ça fait 118 loups qui vont être autorisés cette année à être tirés par des professionnels, la louveterie, les agents de l'Office français de la biodiversité, donc c'est quand même très encadré. Il y a du braconnage, évidemment. Mais cet encadrement sert principalement sur les 20% de troupeaux qui concentrent vraiment les attaques. Okay. C'est là où c'est le plus problématique, et c'est principalement les Alpes du Sud.
Et du côté des éleveurs, quel est l'état d'esprit vis-à-vis de l'étude Canovis? Enfin, est-ce qu'ils sont plutôt en attente pour se dire « Ok, je pars du principe que de toute façon, je ne peux pas me débarrasser du loup et je vais accepter finalement sa présence et adapter ma défense finalement, je vais la personnaliser » ou est-ce qu'ils sont plutôt en mode « Laissez-nous tirer et puis advienne que pourra ».
Je pense que oui, que toutes les attitudes sont présentes. À ma connaissance, il n'y a pas eu de réaction à cette étude de Canovis par la Fédération nationale ovine, par exemple. Les instituts techniques, en tout cas, s'y intéressent et notamment... ils diffusent maintenant un réseau de formateurs des chiens de défense, parce que ce n'était pas le cas auparavant.
Tu veux dire qu'en gros, un éleveur dressait lui-même son chien de défense.
Alors que c'est quand même un boulot, il faut connaître les chiens, il faut savoir comment l'acclimater au troupeau, et ce n'est pas un boulot forcément d'un éleveur de brebis. Quoi. Alors donc, il y a eu des erreurs qui ont été commises, et on a mal encadré les choses, donc on ne sait pas combien il y a de chiens de défense en ce moment dans les alpages, et le plus surprenant, c'est qu'il n'y a pas de studbook, il n'y a pas de pédigré. Donc comment savoir si effectivement on a un chien qui est de bonne lignée ou pas ? Personne ne le sait. Donc il faut vraiment, et ça commence à être fait, réencadrer la filière du chien de défense. Pendant 25 ans, on a fait n'importe quoi.
Afin de justement éviter à la fois des débordements, mais aussi des comportements peut-être de chiens désagréables vis-à-vis des randonneurs ou des gens qui passent par là.
C'est ce que j'ai appris dans le massif des Bauches, à ma grande surprise, c'est que ces chiens finissent par être des problèmes. C'est-à-dire que l'été, au lieu de défendre le troupeau, ils vont chasser, ils font pas leur métier. Ou alors là, c'est le plus terrible, et les maires de ces régions ont des plaintes, c'est-à-dire qu'ils viennent mordre un randonneur ou un vététiste. Et là, il y a des plaintes. Et l'hiver, donc ils reviennent à l'étable, et là, c'est les aboiements sans fin, quoi. Donc, nuisance sonore.
Finalement, c'est un autre canidé qui pose problème.
Voilà, exactement. Mais c'est le même, hein. Ils sont interfertiles, donc c'est les mêmes.
J'emprunterai ma conclusion au philosophe Rémi Guichard, qui a dit, ou plutôt chanté, « Qui a peur, qui a peur, qui a peur du loup ? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est peut-être vous. » Plus efficace et moins gênant qu'un hurlement en pleine nuit, n'oubliez pas de vous abonner à 6ème Science pour recevoir une alerte dès qu'un nouvel épisode est publié. À dans 2 semaines pour envoyer de la science et la hurler dans tous les sens.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.